La magie de la technique, c'est que je l'ai derrière, mais je ne l'ai pas sur devant. Donc, arrivez à lire ou pas du tout? Bon, je vais essayer de parler dans le micro, mais j'aime pas trop les micros, en fait. Parce que généralement, je préfère bouger, mais bon. Donc, le sujet de la présentation, comme il est indiqué derrière moi, c'est le logiciel libre et une autre vision du droit d'auteur, ou peut-être, en fait, tout simplement, les sources du droit d'auteur. Alors, attendez, je vais juste essayer de voir si je ne l'ai pas sur les deux écrans en même temps. Ah, mais je les ai sur les deux, maintenant, c'est bon, c'est magique. Alors, d'abord, qui je suis ? Je suis un activiste bénévole du mouvement du logiciel libre. Donc mon activité principale n'est pas de développer des logiciels libres, en tout cas du côté associatif, mais de faire la promotion et la sensibilisation autour du logiciel libre, donc auprès du grand public, des pouvoirs publics, des journalistes, des entreprises. Donc dans ce cadre, en 1996, j'ai créé l'APRIL, qui est l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, et j'ai cofondé en 2001 la Free Software Foundation France, pour avoir une représentation juridique de la fondation du logiciel libre en France, j'y reviendrai un peu plus tard. Et à titre professionnel, je suis un consultant indépendant en logiciel libre. Donc je ne fais que du logiciel libre à 100%. Ce que je ne suis pas, ce qui est beaucoup plus intéressant pour cette conf, c'est que je ne suis pas un juriste. IANAL est une abréviation du jargon informaticien qui veut dire « je ne suis pas un juriste ». Donc ça veut dire qu'effectivement, tout ce que je peux dire peut être pris simplement en tant qu'informaticien qui essaie de comprendre le droit, mais pas en tant que juriste. Mais je n'ai pas trop parlé en fait de droit, même si je regrette qu'il n'y ait pas eu de présentation sur le droit d'auteur, parce que ça va me permettre de mieux comprendre peut-être le logiciel libre. Mais gardez à l'esprit que je ne suis pas du tout un juriste. Alors, d'abord, avant de parler de logiciel libre, on a beaucoup parlé ce matin et un petit peu hier de programmes, de logiciels, de code source. Je pense qu'il est important de faire une petite note sur le programme et de rappeler qu'un programme, ben, ça n'a pas une forme unique, ça a plusieurs formes. Donc, d'abord, un programmeur va écrire un programme dans un langage de programmation relativement évolué, c'est-à-dire relativement compréhensible par un être humain. Et ensuite, dans le cadre des langages en tout cas compilés, mais ça c'est un exemple précis, le programme va subir différentes transformations. La première transformation, ça va être la transformation du langage code source, qui est compréhensible directement par l'être humain, dans un langage assembleur. Ce langage assembleur est encore relativement compréhensible, quoique moins compréhensible. La deuxième phase, va être la transformation du langage assembleur dans un langage machine que comprend nativement la machine. Chaque machine comprend un langage natif différent. Les 386, les Mac, tout type de machine comprend des langages machines différents. Donc, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est dans le processus de création d'un programme, un informaticien part généralement d'un code source pour arriver à un code qui est compréhensible par la machine. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais généralement c'est le cas. Alors, prendre un exemple, pour bien vous faire comprendre que quand on réfléchit au programme, il faut bien penser qu'on peut réfléchir à la fois sur le code exécutable final, sur le code assembleur ou sur le code source. Donc pour un peu démythifier ce genre de choses, je vais vous montrer du code source. Là, vous avez deux exemples de code source écrits en langage C, qui sont relativement compréhensibles. Le premier, par exemple, est très clair, il affiche à l'écran le message « Hello World ». Si demain, vous vouliez modifier ce programme, et par exemple le passer en français, la modification est ultra simple, n'importe qui peut le faire, il suffit de changer la chaîne de caractère « Hello World » en « Bonjour tout le monde ». De refaire la phase d'assemblage et de compilation, d'exécuter le programme, et on a en affichage, au lieu de « Hello World », on aura « Bonjour tout le monde ». Le deuxième exemple est légèrement plus compliqué, parce qu'il introduit une variable, mais au final, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche le carré d'un nombre, en l'occurrence 2. Il affiche 4. Si on veut modifier le programme et lui faire afficher le carré de 3, il suffit de remplacer i égale 2 par i égale 3. C'est quelque chose qui est relativement compréhensible. Vous pouvez simplement imaginer, pour ceux qui aiment bien cuisiner, que le code source, c'est la recette de cuisine. C'est compréhensible par quelqu'un qui connaît les mots qu'on emploie dans les recettes de cuisine, comme par exemple préserver, monder, etc. Et qui est un processus qui consiste généralement par une cuisson, qui arrive au code exécutable, donc au plat cuisiné. Donc ça, c'est deux exemples de code source qui sont relativement compréhensibles et qui montrent qu'il est relativement simple de faire pour un programmeur des modifications là-dedans. Maintenant, si on passe au langage assembleur, c'est-à-dire la deuxième phase, en haut, sur la partie haute, c'est l'assembleur du programme de précédent, le Hello World, et en bas, c'est l'assembleur du deuxième programme. Alors, on voit qu'en assembleur, sur la première version du programme, donc le Hello World, il est encore relativement facile de modifier. On comprend où faire la modification pour le passer en français. Il suffit de changer Hello World par Bonjour tout le monde. Sur le deuxième exemple, là, on voit un peu plus difficilement où il faut faire la modification. Ça devient un peu moins compréhensible. Alors, vous pouvez imaginer, bien sûr, que ces programmes sont relativement simples. Dans des cas de programmes beaucoup plus compliqués, l'assembleur va devenir relativement compliqué. Mais c'est toujours, à la limite, gérable par un informaticien, mais de moins en moins. Et la troisième étape, c'est le code exécutable. Alors, comme ce matin, Edouard Trépose vous a déjà dit que c'était carrément illisible par un être humain normal, je ne vais pas vous montrer de code exécutable. Mais gardez à l'esprit qu'un informaticien travaille généralement sur un code source qui est compréhensible par n'importe qui, je répète, avec un minimum de connaissances, et qui a des processus de traduction dans un code assembleur, dans un code machine, etc. Ça, c'est important parce que quand vous travaillez dans le domaine du quand vous connaissez le monde du logiciel propriétaire, vous n'avez qu'une vision du logiciel qui est finalement la version exécutable, celle que vous exécutez tous les jours. Par exemple, vous avez la version exécutable de ce programme qui permet de faire des slides, mais vous n'avez pas le code source. Et à la limite, vous n'imaginez même pas avoir la possibilité d'avoir le code source et la possibilité de le modifier. Ça, c'est le logiciel propriétaire. On va voir dans le logiciel libre, l'aspect code source est fondamental. Alors, comme on n'est pas nombreux, ouais, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, parce que je ne suis pas là pour donner un cours. D'abord, je ne suis pas prof. Je pense que ce sera beaucoup plus simple de prendre les questions au fur et à mesure qu'à la fin. Alors, un petit rappel, parce que j'ai remarqué que les juristes aimaient beaucoup citer des anciens juristes, des grands noms. Et moi, j'aime bien cette citation de Thomas Jefferson. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Qui est un petit rappel, finalement, sur le terme de propriété intellectuelle ou de possession sur des idées. Est-ce qu'il est naturel de parler de possession, finalement, pour des idées? Qu'est-ce que dit, finalement, Thomas Jefferson là-dedans? Il dit, quand une idée est divulguée, à partir du moment où elle dit divulguée, ben chacun peut s'en saisir, chacun peut la posséder, et la personne qui a divulgué l'idée ne la perd pas. Effectivement, si je vous donne une idée, si je vous donne une explication, par exemple à l'algorithme énigmatique ou autre chose, je ne perds pas la possession de cette idée, je l'ai toujours. Par contre, vous aussi, vous l'avez. Dans le domaine du matériel, c'est complètement différent. Si je vous donne, par exemple, un stylo, je n'ai plus l'usage du stylo. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre le matériel et l'immatériel, qui implique des changements de pensée, et qui implique aussi de ne pas appliquer les mêmes règles de propriété, entre guillemets, du matériel à l'immatériel. C'est pour ça que je n'aime pas du tout le terme propriété intellectuelle, parce que ça suppose qu'il y a une propriété intellectuelle. C'est un présupposé qu'il faudrait démontrer. Alors l'exemple de la bougie qui transmet la lumière sans perdre la lumière est de ce côté-là tout à fait exemplaire. Donc, il faut bien se rappeler que finalement, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de droits d'auteur, de brevets, etc., où on nous dit finalement on protège une œuvre, on protège un auteur, bah peut-être qu'à l'origine, ce n'était pas du tout ça les idées du droit d'auteur ou du brevet, c'était plutôt autre chose peut-être. C'est-à-dire le transfert, tout simplement, la diffusion de l'information. Alors si on regarde un peu sur le droit d'auteur, si on revient un petit peu en arrière, alors j'ai choisi exprès un exemple américain qui est la Constitution américaine, donc qui est plutôt le copyright que le droit d'auteur français tel qu'on le connaît. Un rappel qu'en 1787, la Constitution américaine indique que le Congrès est autorisé à promouvoir le progrès de la science et des arts utiles en garantissant pour un temps limité aux auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurs œuvres et inventions respectives. Donc là, on voit deux choses importantes. La première, c'est que le but de la protection, entre guillemets, là aussi, c'est de promouvoir le progrès de la science et des arts utiles. Le but n'est pas de protéger l'auteur ou l'œuvre. En tout cas, pas l'auteur. C'est de protéger la diffusion du savoir. La deuxième chose importante, on voit qu'on accorde un monopole exclusif pour une durée limitée. Alors, il faut se souvenir, je crois qu'en 1787, la durée limitée, c'était 12 ans. Actuellement, aux États-Unis, c'est 95 ans. Donc, on voit que la durée limitée a tendance à augmenter. Ce matin, on parlait de la perte du domaine public, ou en tout cas de l'épuisement du domaine public. Souvent, on dit que le copyright anglo-saxon, la durée de copyright anglo-saxon augmente à chaque fois que Mickey risque de tomber dans le domaine public. D'ailleurs, les dernières lois qui ont étendu le copyright à 95 ans, on les a appelées les Mickey Mouse Copyright Act, en fait, parce que c'était surtout les promoteurs de Disney qui avaient peur de perdre, de voir tomber dans le domaine public Mickey. Donc, se rappeler qu'au départ, finalement, aux États-Unis, et c'est exactement la même chose en France, le but, c'était la progression des sciences et des arts utiles. Alors, comme je cherchais tout à l'heure un exemple, à la même période, c'est-à-dire en 1793, il y a l'une des premières lois sur le droit d'auteur en France, où il y a deux textes, enfin, où il y a deux idées qui ressortent. C'est que un droit exclusif est conféré aux auteurs parce que leur propriété est la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés, puisqu'elle procède du fruit de la pensée et de la création intellectuelle. Et deuxième chose, ce droit est temporaire. Là, dans l'exemple, l'auteur en jouira pendant sa vie, puis ses héritiers pendant 5 ans après sa mort, parce que l'intérêt public exige aussi au nom de la diffusion des œuvres que le monopole ne soit pas éternel et que l'œuvre puisse rentrer dans le domaine public. Donc on voit dans ces deux exemples que le but finalement de ce genre de protection, entre guillemets à nouveau, c'est pas de protéger finalement un auteur au départ, c'est d'assurer que les œuvres vont retomber dans le domaine public pour que chacun en profite. Et donc on peut se poser aujourd'hui la question de savoir que si est-ce que les durées actuelles du droit d'auteur ou du copyright sont relativement réaliste par rapport à ces objectifs-là. Quand on voit qu'en France, par exemple, le droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort d'un auteur, est-ce que finalement, on peut dire que c'est une durée limitée? Est-ce que ça ne remet pas en cause les objectifs, finalement, de ce genre de protection? C'est ce que je dis un petit peu juste après, c'est qu'il ne faut pas... Ce que je dis, c'est que ce ne signifie pas qu'il faut renoncer forcément au droit d'auteur, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas un droit de propriété, que ce n'est pas naturel, et que la société accorde des monopoles exclusifs pour favoriser la production de savoir. Et on va voir que le logiciel libre utilise le droit d'auteur en ressourçant finalement le droit d'auteur pour permettre la production et la diffusion du savoir immédiatement. Et ce, sans appropriation généralement. Alors, un petit rappel sur le droit d'auteur. Comme il n'y a pas eu de présentation réellement formelle sur le droit d'auteur, ce que je peux dire à la limite, à moins que certains aient eu des cours sur le droit d'auteur, vous me croirez, les programmes informatiques sont protégés par le droit d'auteur. En gros, le droit d'auteur, on peut dire, c'est quoi? C'est un monopole et c'est le droit d'interdire. C'est-à-dire l'auteur a le droit d'interdire un certain nombre de choses. Et grosso modo, le droit d'auteur garantit deux choses. Des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que, par exemple, l'auteur peut interdire l'autorisation de copier un programme pour le donner ou le vendre. Il peut interdire la modification. Il peut également interdire l'utilisation dans des clauses, en dehors des clauses stipulées par sa licence. Ça, c'est, je dirais, les devoirs d'interdiction que permet le droit d'auteur. Par contre, et comme l'a expliqué ce matin Edouard Tropoz, le droit d'auteur n'interdit pas d'écrire un nouveau programme qui va être compatible avec un autre programme, en termes d'interface, ou interopérable avec le programme original. Donc par exemple, on va prendre un exemple, le droit d'auteur permet à un éditeur d'écrire, de créer un logiciel de traitement de texte, qui va par exemple sauvegarder ses données dans un format. Par contre, il n'interdit pas à quelqu'un d'écrire un autre traitement de texte qui va être compatible en termes d'entrée-sortie au niveau des formats, de manière à pouvoir échanger de l'information, à être interopérable. Donc ça, c'est le droit d'auteur. Et dans le domaine des logiciels, on a des types de licences qui spécifient quels sont les droits que les utilisateurs ont par rapport au logiciel. Donc là, j'ai cité quelques licences de distribution de logiciels libres, j'ai oublié libre, et je vais les détailler parce qu'il y a deux grands types de licences. Mais retenez que le droit d'auteur permet de faire des programmes interopérables avec d'autres, et qu'il y a des licences d'utilisation qui vous donnent ou vous restreignent des libertés. Généralement, vous ne les lisez pas, vous faites juste accept. Mais généralement, comme on en parlait à table tout à l'heure, quand vous faites accept, des fois vous le regrettez parce que vous n'avez pas lu en fait le texte. Alors, on dit souvent, beaucoup de gens pensent que le logiciel libre, c'est du domaine public, c'est la mort du droit d'auteur. Pas du tout. Je rappelle que l'article L122.6 de le Code de propriété intellectuelle dit que l'auteur a le droit d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel, en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme, la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant, la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit. Ça, c'est ce que permet le Code de la propriété intellectuelle au niveau des logiciels. C'est parce que ce Code de la propriété intellectuelle permet de faire ça que le logiciel libre utilise le droit d'auteur en ressourçant à nouveau le droit d'auteur, en donnant les libertés, comme je vais l'expliquer après, aux utilisateurs. Mais attention, le logiciel libre est basé sur le droit d'auteur, donc il y a des règles d'utilisation, il y a de la protection qui existe, entre guillemets, c'est basé sur le droit d'auteur, c'est pas du domaine public, ça c'est très important. Le logiciel libre n'est pas la remise en question du droit d'auteur, c'est une réutilisation du droit d'auteur pour assurer la diffusion de l'information, et éventuellement pour moi, c'est une façon de ressourcer finalement le droit d'auteur pour revenir à ses origines. Alors dans le droit d'auteur, on va dire qu'il y a deux types de licences dans le niveau du logiciel, ce qu'on va appeler les licences propriétaires et les licences libres. Licence propriétaire, on va dire que c'est la réservation du programme. L'auteur se réserve le programme et vous donne un certain nombre de libertés d'utilisation, généralement à titre onéreux, mais c'est tout. Dans le cas du logiciel libre, on va utiliser le droit d'auteur pour organiser la diffusion du logiciel en donnant un certain nombre de libertés basées sur le droit d'auteur. Ce qui n'est pas marqué dans le slide là, mais c'est peut-être sur un des prochains slides, c'est qu'il n'y a pas de... C'est licence propriétaire et licence libre. C'est pas licence propriétaire, licence libre et licence commerciale. Ce qui est commercial, ça peut être vendu. On peut avoir à la fois avoir des logiciels libres qui peuvent être vendus et des logiciels propriétaires qui peuvent être vendus. Là, il n'est pas question d'être vendu ou pas, c'est une question de liberté. Donc retenez que c'est libre qui s'oppose à propriétaire et non pas à commercial. Bon, alors, un petit rappel sur ce qu'est le logiciel libre. Pour y penser au logiciel libre, on peut penser à libre expression ou libre échange et pas à bière gratuite. Bien que depuis hier, j'ai bu pas mal de bières gratuites, en fait, et je ne vais pas m'en plaindre, mais avant toute chose, c'est une notion vraiment de liberté, d'échange, d'expression, pas de gratuité. Et en gros, il y a quatre libertés dans le logiciel libre. La première, c'est la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. C'est ce qu'on appelle la liberté zéro. Alors pourquoi ça commence à zéro? Parce que je pense que Richard Stallman était un fan sans doute de langage C, et qu'on commence à zéro et pas en 1, comme en Pascal. Non? C'est faux? Ah bon. Donc la liberté d'exécuter le programme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un logiciel libre, quelle que soit la façon dont vous l'êtes procuré finalement, soit vous l'avez téléchargé sur Internet, soit on vous l'a vendu sur un CD-ROM, soit un ami vous l'a donné, ben vous en faites ce que vous voulez en termes d'utilisation. C'est-à-dire si vous l'utilisez sur votre machine personnelle, vous pouvez. Si vous voulez l'utiliser au boulot, vous pouvez. Vous avez toute liberté. Vous pouvez l'utiliser sur un poste, sur 10 postes, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est la liberté d'utilisation. Si on compare par rapport au logiciel propriétaire, la liberté d'utilisation dans le logiciel propriétaire est très limitée. Généralement, vous avez une liberté d'utilisation sur votre propre poste personnel, mais pas sur un deuxième poste. Si vous voulez un deuxième poste, c'est un autre type de licence, c'est-à-dire que vous allez devoir négocier. Donc la liberté d'utilisation dans le logiciel propriétaire est très limitée. Par contre, dans le logiciel libre, elle n'est pas limitée. Ça, c'est la première liberté, et on va dire que cette liberté concerne avant tout, je dirais, l'utilisateur, plutôt que le développeur, finalement. C'est la liberté d'utilisation. La deuxième liberté, et c'est là où l'accès au code source va intervenir, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme. En effet, finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, un programme, en dehors de sa forme exécutable qu'on utilise, c'est aussi un code source. On peut étudier. Étudier pourquoi ? Pour voir comment il fonctionne. Par exemple, on est étudiant en informatique, on a envie de savoir comment il fonctionne. On a envie de savoir comment les algorithmes sont implémentés. Ou on a envie de savoir tout simplement ce que fait le programme, en dehors de son affichage. Par exemple, aujourd'hui, il y a des programmes avec le réseau qui font un certain nombre de choses de connexions sur des serveurs dont on n'a pas forcément connaissance. Avec l'accès au code source, on peut savoir ce que fait exactement le programme, comment il fonctionne. Alors, il faut certainement quelques connaissances approfondies, mais des informaticiens peuvent le faire, des utilisateurs, je dirais, aguerris peuvent le faire aussi. Et en tout cas, dans le logiciel libre, on a cette liberté d'étudier le fonctionnement du logiciel. Et pour cela, bien entendu, il faut avoir accès au code source. Parce que étudier le fonctionnement d'un logiciel en se basant uniquement sur le code binaire, c'est faisable, mais c'est relativement compliqué. Il est quand même beaucoup plus simple d'avoir accès au code source. C'est un peu comme si on reprend la notion de recette de cuisine. Si vous voulez savoir quels ingrédients il y a dans un plat cuisiné, il est quand même plus simple d'avoir la recette de cuisine plutôt que d'essayer de deviner en goûtant. Et notamment les proportions, par exemple, je vous donne bon courage pour trouver les proportions exactes. Avec le code source, vous allez comprendre très rapidement comment il fonctionne. La deuxième liberté, c'est la liberté de redistribuer des copies du logiciel. En effet, du logiciel, c'est du savoir. Il paraît naturel de faire des diffusions de logiciels, de partager. Et cette liberté dans le logiciel libre, c'est la deuxième liberté, c'est de faire des copies. Vous êtes procuré un logiciel libre, un ami en a besoin, vous pouvez lui en faire une copie, sans aucun problème. Vous n'êtes pas limité par quoi que ce soit. Ça, c'est la liberté de distribution des copies. La troisième liberté, c'est la liberté d'améliorer le programme. Et c'est peut-être l'une des libertés les plus fondamentales, c'est se dire, si on revient à la liberté d'étudier, on se dit, bon, on a étudié le programme, on a vu comment il fonctionnait. Peut-être, d'un coup, on est face à deux choses. La première, c'est qu'on se dit, là, il y a des bugs dans un logiciel. Moi, je ne connais pas de logiciel sans bugs, ça n'existe quasiment pas. Parce qu'un logiciel est quelque chose de très compliqué, qui est fait par un être humain, donc il y a forcément des bugs. Donc la première chose qu'on se dit, c'est que quand on a un bug, pour le corriger, avec le code source, c'est relativement simple quand on est informaticien. On a le code source, on voit où ça plante, on fait la modification, on corrige le bug. Deuxième possibilité qu'on pourrait avoir, c'est d'améliorer le programme, d'ajouter une fonctionnalité. En effet, en général, les programmes, ils ont un certain nombre de fonctionnalités, mais souvent, il leur manque une fonctionnalité dont vous avez besoin. Dans le cas de logiciel propriétaire, pour avoir cette fonctionnalité en plus, bah vous devez compter sur l'éditeur. C'est-à-dire espérer que l'éditeur va rajouter cette fonctionnalité. C'est exactement la même chose pour la correction de bugs. Si vous avez des bugs dans le logiciel propriétaire, comme vous dépendez uniquement d'un éditeur pour faire les corrections, bah vous attendez que l'éditeur corrige les bugs. Et généralement, l'éditeur corrige les bugs qui sont vraiment importants pour la grande majorité des gens. Des fois, il ne les corrige pas. Mais si votre bug n'est pas très important, il ne le corrigera pas. Donc avec les possibilités d'améliorer, de modifier le programme, on peut à la fois corriger des bugs et rajouter des fonctionnalités. Et s'ajoute la dernière liberté, qui est la liberté de diffuser ces versions modifiées. Parce que toutes ces libertés, finalement, ça vous concernez vous, en tant que vie privée, je dirais. Vous pouvez utiliser le programme, vous pouvez le donner à des amis, vous pouvez le modifier pour vos propres besoins. Mais avec la liberté de diffuser ces modifications, là, vous rentrez dans un autre domaine, qui est une construction, finalement, de logiciels, de savoir, en construisant des briques, avec des gens qui sont reliés par, en réseau, par exemple. Et donc là, on voit un des effets intéressants du logiciel libre, c'est l'effet de réseau et du nombre de personnes qui va potentiellement pouvoir travailler sur un logiciel. C'est que potentiellement, n'importe quel développeur peut travailler sur un logiciel libre. Donc, corriger les bugs ou rajouter des fonctionnalités. Là où, dans une équipe d'éditeurs, on a traditionnellement 1, 2, 10, une centaine de développeurs, dans le monde du logiciel libre, on n'est pas limité par le choix de l'éditeur. N'importe qui peut contribuer au logiciel libre. Donc, le logiciel libre, en termes de liberté, c'est très simple. C'est 4 libertés, études, utilisation, modification, redistribution. Et on va voir que les licences du logiciel libre vont surtout différencier dans la quatrième liberté, qui est la liberté finalement de rediffuser les versions modifiées. Donc ça, c'est la définition du logiciel libre. Et je le rappelle à la fin, le logiciel libre et le logiciel propriétaire, ça s'oppose. Par contre, les deux peuvent être commercialisés. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez besoin d'un logiciel libre, vous pouvez aller chez votre vendeur du coin, acheter une distribution, par exemple Mandrake ou Red Hat, et c'est quelque chose qui est commercialisé. Mais une fois que vous avez procuré cette distribution, vous avez les quatre libertés. Donc vous pouvez acheter, par exemple, un CD pour installer 100 postes. Alors, juste un peu d'histoire pour rappeler que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau quand même, le logiciel libre. On peut dire que la formalisation du logiciel libre, ça débute au début des années 80, par le projet GNU. Projet GNU qui veut dire GNU is not Unix. L'idée, c'était d'écrire un système libre qui reposerait plus ou moins sur les principes d'Unix, qui est un système multitâche très connu, en tout cas dans l'informatique professionnelle et autres. Avec une volonté, c'est de le créer entièrement libre. En gros, on pourrait dire que la personne qui a démarré ce projet, qui s'appelle Richard Stallman, qui était chercheur au MIT, je dirais il a quelque part réutilisé les principes de la recherche scientifique pour créer un système. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la recherche scientifique? C'est la publication, c'est la revue par les pairs, c'est la transparence. C'est exactement la même chose dans le logiciel libre. Donc on peut à peu près dater le début du logiciel libre dans les débuts des années 80. En 85, il crée la Fondation pour le logiciel libre avec deux objectifs. Et ça, c'est deux objectifs qui sont importants et complémentaires. Et le succès du logiciel libre, et je dirais son importance pour la façon de repenser finalement entre guillemets le droit d'auteur, vient de ces deux choses-là. Deux objectifs, la première chose c'était de créer du logiciel libre. En effet, c'est bien d'avoir des idées de logiciel libre, de vouloir avoir des logiciels libres, mais il faut en créer. Donc le premier objectif c'était de créer des logiciels libres. Et le deuxième objectif c'était de sécuriser le logiciel libre. C'est pas tout de dire que le logiciel que je vous transmets, il y a les quatre libertés. On vit dans un système juridique précis, donc copyright anglo-saxon au niveau des États-Unis, droit d'auteur au niveau français, enfin européen avec quelques différences, et donc il faut le protéger. Et donc c'est pour ça que la FSF, notamment, a créé la GNU General Public License, la licence publique générale, pour protéger le logiciel libre. Ce n'est pas la seule licence qui a été créée, j'en parlerai des autres, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y avait deux objectifs, à la fois créer du logiciel libre et sécuriser le logiciel libre. On considère qu'on est dans un monde juridique qui existe. Bah, il faut tenir compte de ce monde juridique pour sécuriser ce qu'on veut faire et les libertés. Alors, les licences d'utilisation, en gros, ça détermine les droits et devoirs des utilisateurs. Et il y a différents types de licences dans le logiciel libre qui vont principalement se différencier par la liberté de redistribution. Il y a d'autres différences qui existent, mais je dirais que c'est un peu trop... pas trop rentrer dans les détails. Et en fonction de ces types de licences, il y a différentes conséquences, à la fois pour l'utilisateur et pour le développeur. Donc on va les passer en revue. Enfin, on va passer en gros les deux grands types de licences qui existent. Le premier type de licence, c'est ce que j'appelle les licences permissives. Donc le logiciel qui existe, qui est libre, a les quatre libertés. Mais en gros, on peut y apporter, dans les versions ultérieures, des clauses restrictives. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, on peut le modifier et en faire une version propriétaire. C'est pour ça qu'on appelle ça permissif, finalement, parce que l'utilisateur, finalement, va être libre du choix de la licence pour sa version modifiée. Il va pouvoir choisir de le laisser en logiciel libre ou de le passer en propriétaire. Donc, ce qui permet, par exemple, des logiciels libres qui sont sur un tel type de licence, d'être intégrés dans le logiciel propriétaire. Alors, l'avantage, ce que je dis, c'est que le code ou des extraits peuvent être utilisés dans n'importe quel type de logiciel libre ou pas. Donc on a quelque part une intégration. Et la conséquence, ben justement, c'est le désavantage, c'est l'inconvénient, je dirais, de l'avantage précédent, c'est que le logiciel développé par des contributeurs du libre peut être intégré dans le logiciel propriétaire et donc récupéré dans le logiciel propriétaire sans que les modifications apportées soient retournées au monde du logiciel libre et à ses utilisateurs. Un exemple de licence de ce type-là, c'est la licence BSD. Donc vous voyez, elle est relativement courte. J'ai pris la version anglaise parce que je l'avais sur la machine, mais on voit que dans les conditions de redistribution, en fait, ben, il n'y a pas grand-chose. La seule chose qu'on peut voir, par exemple, c'est laisser les notices de copyright, mais ça c'est quelque chose de logique. Et c'est le troisième point simplement qui dit qu'on ne peut pas utiliser le nom de l'université, donc l'occurrence de Berkeley, pour faire de la pub au niveau des produits qui seront modifiés. Donc ça c'est une licence logicielle libre qui vous donne les quatre libertés, utilisation, modification, redistribution et diffusion, mais qui ne vous impose rien sur les versions modifiées. Donc vous pouvez en faire une version propriétaire, vous pouvez l'intégrer dans le logiciel propriétaire, vous pouvez le laisser sous le même type de licence. Ça, c'est une licence permissive. Et de l'autre côté, il y a les licences que certains appellent restrictives et que moi j'appelle libératrices. Là, on a l'obligation de diffuser les versions modifiées sous les mêmes termes. Donc on va avoir une continuité dans le logiciel libre. J'insiste bien sur le fait que c'est si vous diffusez une version modifiée, vous devez le faire sous les mêmes termes. C'est-à-dire si vous le gardez pour vous, vous faites ce que vous voulez. La vie privée, ça vous regarde. Mais par contre, si vous diffusez une version modifiée, vous le faites sous les mêmes termes. La licence, je dirais, libératrice par excellence, c'est la GPL, la licence publique générale, qui implémente une notion qui a été appelée copyleft par Richard Stallman. Pourquoi copyleft ? Ben, c'est un jeu de mots, bien entendu, sur copyright. C'est que là où le copyright restreint les libertés des utilisateurs, le copyleft inverse le copyright, finalement, pour donner les libertés et garantir les libertés aux utilisateurs. Donc la licence copyleft par excellence, c'est la GNU GPL. Alors l'avantage, ben, c'est que le travail de la communauté ne peut pas être récupéré. Donc on a une persistance ou une hérédité de la liberté au fur et à mesure des versions modifiées du logiciel. L'inconvénient, mais ce n'est pas un inconvénient pour les gens du logiciel libre, mais c'est un inconvénient pour les gens du logiciel propriétaire, c'est qu'on ne peut pas en récupérer du code sous GPL pour en faire une version propriétaire. Donc Microsoft, par exemple, ne peut pas s'approprier du code GPL. C'est pour ça, par exemple, que Microsoft adore les licences de type BSD, parce qu'il peut récupérer du code BSD et l'intégrer dans son propre code, et n'aime pas les licences GPL, parce qu'il ne peut pas faire ça. Et Eben Moglen, le professeur Eben Moglen, qui est professeur de droit à l'Université de Columbia, qui est le co-auteur de la GPL avec Richard Stallman, dit que la GPL, c'est un pot commun dans lequel chacun peut ajouter, mais rien retirer. Je crois que c'est une belle image pour montrer ce qu'est la GPL. Alors d'ailleurs, si on regarde le préambule de la GPL, ça c'est le début du préambule de la GPL, elle dit clairement ce qu'elle veut dire, quoi. C'est que la licence GPL est destinée à garantir votre liberté de partager et de modifier les logiciels libres. C'est vraiment le but final de la GPL. Et justement, dans la GPL, qui est une licence qui est assez longue, contrairement à la licence BSD, c'est pour ça que je n'ai pas mis le contenu de la licence GPL, il y a une section, qui est la section 2B, qui est très connue, qui est justement la section qui implémente, entre guillemets, cette obligation, lors d'une diffusion de version modifiée, de les mettre sous le même terme. Elle le dit exactement, vous pouvez modifier votre copie, ou vos copies du programme, ou toute partie de celui-ci, ou travail basé sur ce programme, et copier, distribuer, modification et ce programme, à condition que vous conformiez également aux conditions suivantes, donc c'est la condition 2B, il y en a d'autres, mais c'est la B qui fait l'hérédité de la liberté, c'est sous les termes de la licence publique générale que vous devez distribuer l'ensemble de toute réalisation contenant toute ou partie du programme, avec ou sans modification. Donc on voit que c'est cette section-là qui libère, qui assure l'hérédité de la liberté. Là, c'est aussi important de voir, par exemple, qu'il est toujours important de lire les licences. Parce que c'est les licences qui vous indiquent quels sont vos droits et vos devoirs. Là, c'est un devoir que vous avez. C'est que si vous faites une version modifiée et que vous la redistribuez sous les mêmes termes. Donc c'est pour ça que quand on utilise des logiciels, on est obligé d'en accepter les conséquences de la licence, qu'on l'ait lu ou qu'on ne l'ait pas lu. Alors, c'est ce que je répète là, c'est que la GNU-GPL finalement renverse la logique de protection du copyright, entre guillemets, pour aboutir à un mode d'exploitation qui favorise l'échange et le partage. Parce que c'est le but de la GPL. Il y a les protections des quatre libertés, et il y a un intérêt entre équilibre individuel et intérêt général. Excusez-moi, je suis en train de digérer, parce que le repas était un peu... souvent, ce qu'on oublie quand on part en termes de droit d'auteur ou autre de brevet, c'est que on oublie le triptyque auteur, utilisateur et société en général. On essaie souvent d'en favoriser un. Alors quand je parle d'auteur, j'inclus aussi les producteurs, etc. Le but, c'est quand même d'arriver à un équilibre entre les trois. On ne va pas favoriser l'un plus que l'autre, même si, au final, celui qui doit être favorisé, si quelqu'un doit être favorisé, c'est l'intérêt général, comme l'a dit Jefferson, ou par exemple Victor Hugo, donc je ne sais pas si mon intervenant précédent, enfin suivant, parlera de ça, vu qu'on a parlé de Victor Hugo et de la création de la ILF ce matin, au final, c'est quand même l'intérêt général qui doit persister. Mais dans la GPL, il y a un équilibre parfait entre liberté individuelle et intérêt général. Et tout le monde est sur un pied d'égalité. Contrairement au logiciel propriétaire, où finalement, ben, en fonction de qui vous êtes, vous avez un certain nombre de droits différents par rapport au logiciel propriétaire. Vous êtes un simple utilisateur, vous allez payer X, vous allez avoir telle liberté par rapport au logiciel. Vous êtes une entreprise, vous allez payer Y, vous allez avoir telle autre liberté. Excusez-moi. Dans le cas du logiciel libre, vous avez tous les mêmes droits. Que vous soyez une entreprise, un utilisateur ou un gouvernement. Dans la première version de la GNU-GPL, je rappelle que donc le projet GNU, c'est début des années 80, c'est 83-84. La première version de la GNU General Public License a été écrite en 1989. La version actuelle a été écrite en 1991 et la nouvelle version va arriver dans quelques temps. Alors le quelques temps étant non déterminé, mais il devra arriver bientôt, c'est-à-dire en cours d'année. Alors pourquoi je mets ça? Ça c'est important, c'est parce que on croit qu'une fois qu'une licence a été écrite, on peut penser qu'une fois qu'une licence a été écrite, elle ne va pas bouger. Or, une licence évolue. Une licence évolue tout simplement parce que la technique évolue et le système juridique évolue. La technique en 1989 était dans un état X. La technique aujourd'hui est dans un état Y. Je prendrai un exemple tout à l'heure. Donc forcément, il faut que les licences logicielles libres tiennent compte de ces évolutions. Et c'est pour ça que la GPL évolue en fonction du temps. Alors, il y a plus de 10 ans entre la deuxième version et la troisième version qui va arriver, parce que c'est relativement compliqué, c'est des choses très compliquées. La GPL est relativement facile à défendre parce que dans le monde du logiciel libre, selon les statistiques qui ont été faites, plus de 60% des projets logiciels libres dans le monde utilisent licence. Alors, quand on cite des chiffres, généralement on explique comment on les obtient, enfin, sauf les gens qui citent des chiffres dans le domaine de la musique qui n'expliquent jamais comment ils les obtiennent. Là, c'est relativement simple, on a été sur FreshMeet, qui est un site qui regroupe un certain nombre de logiciels libres, un sorte de catalogue, et on a calculé combien il y avait de softs qui utilisaient la GNU-GPL. Donc, il y a au moins 60%, donc un peu plus de 60% des logiciels libres dans le monde qui utilisent la GNU-GPL. Ce qui montre l'importance de cette licence, que cette licence a prise au cours du temps. Alors, c'est ce que je disais juste avant. Au niveau de la GNU-GPL, qui va en être à sa troisième version cette année, normalement, ou l'année prochaine, début d'année prochaine, c'est qu'une licence va évoluer. Alors, les licences accordent des libertés, toutes les licences du logiciel libre accordent des libertés, que ce soit les licences type par exemple BSD, GPL ou autres. Il y a des dizaines et dizaines de centaines de licences de logiciels libres. Il y a relativement peu utilisées de façon assez conséquente, mais il y a beaucoup de licences logiciels libres. Donc la totalité accorde les libertés, certaines protègent les libertés, comme je l'ai expliqué avec la GNU-GPL. Et ce qui est important, c'est de comprendre que les licences n'existent pas dans un espace vide. Elles existent dans un espace juridique précis, qui évolue, on l'a vu, avec les nouvelles dispositions, les nouvelles directives, etc. Et elles existent, et elles évoluent en fonction de la technique. En 1989, par exemple, qu'est-ce que voulait dire la diffusion d'un logiciel ou du source d'un logiciel par rapport à 2003? Alors, évidemment, vous n'êtes peut-être pas forcément informaticien, mais dites-vous bien, par exemple, en 89, Internet était très peu développé. Donc si on prend un exemple, par exemple les applications de service provider, c'est la possibilité finalement de louer de l'application sur Internet. En soi, il n'y a pas de diffusion du logiciel, parce que le logiciel s'exécute sur un serveur, vous l'utilisez. Pourtant, vous avez un service. Est-ce que c'est une diffusion d'un logiciel ou pas? Vous voyez qu'au fur et à mesure des années, les techniques évoluent. Et donc les licences doivent tenir compte de ces techniques, l'évolution de ces techniques. Et de même, le système juridique évolue. On va en parler tout à l'heure avec tout ce qui est UCD. Donc on a deux systèmes qui évoluent en parallèle. Et donc il faut en tenir compte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le système juridique évolue aussi en fonction de la technique, en dehors du monde du logiciel libre. Mais bien retenir qu'une licence n'est pas quelque chose de figé, ça doit évoluer, et que l'objectif, c'est d'avoir la licence la plus précise juridiquement, valable, qui permette de protéger les libertés. Et un point important, c'est que le système légal est construit par qui? Par les hommes politiques, par les juristes, et ceux qui s'y intéressent. Alors ça paraît con à dire ça, mais les gens qui, par exemple, se plaignent du système juridique, ben, ils doivent simplement se rappeler une chose, c'est que ceux qui font le système juridique, c'est évidemment les hommes politiques qui votent ça, ils sont conseillés par des juristes et par des lobbyistes, mais il y a aussi tous ceux qui s'y intéressent. Et à partir du moment où on fait l'effort de s'intéresser au système juridique, ben, on peut le faire évoluer. Et il est important de le faire évoluer parce que le système juridique, c'est ce qui peut vous retirer les libertés, dans le domaine du logiciel, mais aussi dans d'autres domaines. On le voit dans d'autres domaines actuellement où il y a des lois qui passe, mais dans le domaine du logiciel, c'est exactement la même chose. Donc il faut rester attentif au système légal et à son évolution pour s'assurer que les libertés qu'on a actuellement, demain, on ne nous les enlève pas. Et c'est notamment l'un des buts de la Free Software Foundation, c'est de rester en contact avec des juristes, de voir le monde légal évoluer et de s'adapter à l'évolution du monde légal. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux slides qui se ressemblent, mais... Ah, oui. La compatibilité des licences entre elles. Généralement, dans le logiciel propriétaire, on a une licence d'utilisation, puis finalement, on se fout un peu de savoir comment on va mixer des codes ensemble, parce que c'est du propriétaire, vous n'avez pas le droit de mixer des codes ensemble. Mais dans le logiciel libre, on arrive à un système où, finalement, on peut utiliser du logiciel, du code source, le modifier, le rediffuser, etc. Mais se pose la question, finalement, de savoir que je vais construire un logiciel avec différentes briques. Par exemple, je vais prendre une brique d'un logiciel qui est là, une autre brique d'un logiciel qui est là. Et se pose la question de savoir est-ce que les licences sont compatibles. Parce qu'en effet, on ne va pas simplement mixer du code et s'assurer que techniquement c'est faisable, mais il faut aussi s'assurer de la compatibilité des licences entre elles. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut s'assurer quand on est développeur, que quand on prend du code de différentes sources avec différentes licences, les licences entre elles soient compatibles. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que dans le monde du logiciel libre, on construit brique par brique, on ne réinvente pas la roue, donc la réutilisation de code implique la réutilisation de licences. Donc, quand on est développeur, show me the source, le code source, montrez-moi le code source, on pourrait dire aussi montrez-moi la licence, pour savoir quel droit j'ai, quel devoir j'ai, quelles sont les limitations, qu'est-ce que je peux faire. De même, il y a les modalités d'application d'une licence logicielle libre. La licence logicielle libre n'est pas forcément simple à interpréter, parce que la technique n'est pas forcément simple, le système juridique n'est pas forcément simple. Donc là aussi, il y a des questions qu'on doit se poser, et en termes de juristes, on doit se poser aussi. C'est-à-dire que les juristes doivent s'intéresser à cette problématique de logiciel libre, qui quelque part, je dirais, les prend peut-être un peu de cours parce qu'ils sont habitués à quelque chose qui n'évolue pas en termes de technique ou très peu. Là, ils sont quelque chose face à un objet qui finalement est polymorphe, qui se diffuse un petit peu sans contrôle, qui modifie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui pose des problèmes juridiques sur lequel les juristes doivent se pencher. Et c'est pour ça que j'encourage fortement, en fait, tout juriste qui a des sujets d'études actuellement, de se pencher sur un cas précis, par exemple, du logiciel libre. Parce que c'est quelque chose de passionnant. Alors je ne sais pas si ça vous permettra de faire avancer votre carrière, comme on discutait avec l'un des autres intervenants, mais en tout cas je pense que vous ferez avancer beaucoup plus facilement et beaucoup plus sérieusement l'état de l'art du logiciel et du droit juridique, plutôt que de pondre le énième papier sur un sujet qui a déjà été débattu. Et donc là je le répète, l'évolution de la GNU-GPL. La GNU-GPL qui couvre, je l'ai déjà dit, à peu près environ au moins 60% des logiciels libres dans le monde, et à ma connaissance la seule licence, peut-être une ou deux autres, qui évolue avec le temps, et sur lequel on a vraiment une garantie d'évolution. Les licences BSD, elles n'ont pas évolué depuis qu'elles ont été écrites. Est-ce qu'elles garantissent aujourd'hui encore les libertés? Bon, déjà, l'origine ne garantissait pas vraiment les libertés, mais bon, elles n'ont pas évolué. La GPL évolue. Alors, on a parlé de logiciels, mais en fait, on a plutôt parlé de programme, le titre logiciel libre. Heureusement qu'il n'y a pas trop de juristes dans la salle, parce que sinon, ils m'auraient allumé sur le terme logiciel, programme, etc. On a surtout parlé de programme, là. On a vu que le logiciel, ce n'est pas seulement un programme, c'est un package, etc. Dans le domaine du libre, finalement, pourquoi s'arrêter au domaine du logiciel? Pourquoi, finalement, les libertés qu'on a dans le domaine du logiciel, dans nos objets fonctionnels, donc avec un intérêt évident à le modifier, on va pas aller sur la documentation? Évidemment, parce qu'une documentation qui décrit un logiciel doit évoluer en fonction de ce logiciel. Si vous avez déjà travaillé dans le propriétaire ou si vous avez déjà utilisé le logiciel propriétaire, souvent vous vous rendez compte que vous avez une version du logiciel et la documentation N-2 du logiciel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à jour. Donc dans les licences, on a des licences libres qui s'appliquent à la documentation. Notamment la FSF a écrit la GNU Free Documentation License pour qu'elle s'adapte précisément au manuel, parce que dans les manuels, on n'a pas forcément la même problématique que dans le domaine du logiciel. Là encore, c'est important de se dire qu'il ne faut pas réfléchir de façon uniforme sur tous les objets, même si on pense que c'est finalement quelque chose de très, très proche. Même si au final, on veut les mêmes objectifs, parce que ce qu'on veut au final, dans le cadre de la documentation libre, c'est qu'il y a diffusion de l'information, les libertés. Alors, la GFDL, donc la licence de documentation libre, a un certain nombre de points, dont deux points qui peuvent être intéressants. La première, c'est la section invariante. C'est de se dire que dans un manuel, tout n'est pas forcément modifiable. Dans un manuel, il y a quoi? Il y a la partie technique. C'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'on ait le manuel qui décrive ce logiciel qui me sert à faire des slides. Ça va décrire comment je dois écrire les slides. Si je veux qu'il apparaisse du jaune, comment je fais? Donc il y a la partie technique. Là, cette partie doit évoluer. Évidemment, elle doit être modifiée. Par contre, on peut très bien imaginer que la personne qui a écrit le manuel ait écrit une préface dans laquelle il raconte sa vie ou qui prend position sur tel ou tel sujet. Et sur cette partie-là, il ne veut pas que ce soit modifié. Je reprends un autre exemple. Tout à l'heure, on discutait de la diffusion des actes de ce colloque. Et quelqu'un me demandait s'il fallait les mettre en licence libre. Ben, je lui dis, ce qui est important, c'est de qualifier l'intention de l'auteur. Est-ce qu'une licence libre, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut voir les conditions exactement qui se cachent derrière la licence libre. Est-ce que vous voulez que quelqu'un puisse reprendre votre texte et le modifier, ou est-ce que vous voulez simplement qu'il puisse être librement diffusé, recopié, éventuellement vendu, mais sans modification, parce que c'est votre point de vue sur un sujet très précis. Et donc, c'est le but des sections invariantes, c'est-à-dire que, par exemple, telle section d'un manuel, qui est sous GFDL, ne peut pas être modifiée. Donc, l'ensemble... Tout le reste pourra être modifié, toute la partie technique, mais cette partie-là ne pourra pas être modifiée. Ça peut aussi avoir d'autres intérêts, par exemple, pour la vente de manuels. Ça peut permettre de rajouter, par exemple, que la version initiale a été faite par tel éditeur. Donc si quelqu'un reprend ce manuel et veut le modifier et veut le vendre, la section invariante indiquant l'origine, finalement, du premier éditeur, ça fait un peu de pub pour le premier éditeur. C'est aussi une façon de l'utiliser. Et la deuxième point qui est intéressant, c'est le format transparent et opaque. Parce que là encore, quand on va sur la documentation, on a vu sur le logiciel, il faut tenir compte du code source, du code exécutable. Mais je ne suis pas convaincu que dans le domaine de la documentation, vous ayez une idée de ce que c'est qu'un format. Une documentation, dans le domaine électronique, ça vient sous un format. Ce n'est pas comme une documentation que j'ai écrite sur ce papier-là, que vous pouvez reprendre, etc. Il y a un format qui existe. Donc est-ce qu'une documentation libre, entre guillemets, donc qui peut être modifiée, dans quel format elle doit être diffusée ? Eh bien, les sections transparentes et opaques définissent les sections, les formats transparents et opaques. Un format transparent, c'est un format qui est publiquement décrit, qui utilise des standards, donc par exemple un HTML validé par le W3C. Et un format opaque, c'est un format qui n'est pas publiquement décrit, par exemple le .doc. Et on considère qu'une documentation pour être libre, la source du document doit être écrite dans un format transparent. Parce qu'on considère que s'il est écrit dans un format opaque, on n'a pas toutes les informations nécessaires pour le modifier de façon réelle. Donc c'est cette notion de format transparent et de format opaque qui est assez important dans la GFDL et qui n'existe pas en tant que telle dans le domaine du logiciel. Mais ça, c'est une notion importante. C'est de prendre en compte le fait que quand on parle de documents et quand on envoie des documents, le format dans lequel est envoyé ce document est important. Et on en parlera, je pense, dans la présentation suivante. Donc de voir donc là que cette licence tient compte des spécificités de l'outil, qui est en l'occurrence un manuel technique. On n'applique pas les mêmes règles en fonction des outils différents. Alors ça c'est un petit point sur le rôle de la FSF et surtout sur le lien entre la Free Software Foundation et la GPL, parce que pas mal de gens ont des idées préconçues là-dessus. Utiliser la GPL n'implique pas de faire partie du projet GNU. C'est-à-dire que si vous écrivez un logiciel et que vous choisissez de le mettre sous une licence GPL, ça n'implique pas que vous vouliez faire partie du projet GNU. C'est deux choses totalement séparées. De même, utiliser la GPL n'implique pas de faire partie de la Free Software Foundation ou de céder ses droits à la Free Software Foundation. Vous gardez vos droits, simplement vous utilisez un texte qui a été écrit par la Free Software Foundation pour garantir des libertés aux utilisateurs. La FSF est simplement l'éditrice de la GNU GPL et est responsable de ses évolutions. Mais c'est vraiment le seul lien. Vous gardez vos droits d'auteur sur votre code et vous utilisez simplement la GPL pour garantir les libertés aux utilisateurs. Alors ça, c'est d'autres rôles de la FSF qui reprend un petit peu certaines des problématiques que j'ai évoquées avant, notamment les conseils sur les différentes licences et les compatibilités des licences entre elles. Également aussi la défense de la GNU GPL en cas de violation. Parce qu'évidemment, on est dans un monde où les gens ne sont pas censés, ne sont pas obligés en tout cas de respecter les règles, et généralement se permet de ne pas les respecter. Donc il peut y avoir des cas de ce qu'on appelle de violation de GPL, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne respecte pas la licence. Donc là, la FSF peut intervenir en tant que conseil ou carrément pour défendre la licence et les utilisateurs. De même, elle est responsable de l'évolution de la GPL. L'acte de publication a changé. Clairement, aujourd'hui, en 2003, la technique n'est plus la même qu'en 1991, et il faut en tenir compte. Et le système juridique non plus. Tout à l'heure, on parlait des brevets logiciels. Alors, j'ai prévu de faire un slide sur les brevets logiciels papier, parce que la présentation de tout à l'heure m'a donné quelques idées. Les brevets logiciels, si demain ils sont valables en Europe de façon légalement, il faudra en tenir compte. Donc les licences du libre doivent en tenir compte pour pouvoir continuer à garantir les libertés malgré une modification du système juridique. Et l'un des rôles de la FSF, c'est une interaction entre le système juridique et le système politique et de rester en contact avec les développeurs, les sociétés, les services, les administrations. Donc c'est vraiment un rôle très actif. Dans le domaine du logiciel libre, la Free Software Foundation a un rôle très actif pour protéger les libertés. Ce n'est pas vraiment la conclusion, ça, en fait. Il y a trois trucs qu'il faut retenir. C'est que finalement, le logiciel libre, on peut le résumer en trois mots. C'est liberté, égalité, fraternité. Pourquoi liberté ? Parce qu'on a les quatre libertés. Utilisation, étude, modification, redistribution. Fraternité, parce que le but, c'est de construire quelque chose ensemble. Et égalité, parce que tout le monde a les mêmes droits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que le logiciel libre s'appuie sur le droit d'auteur et les ressources. C'est-à-dire qu'il revient finalement aux sources du droit d'auteur, qui est la diffusion de l'information du savoir. Simplement, il organise cette diffusion de manière immédiate, plutôt que d'attendre un certain temps, et en plus, il protège cette diffusion. Et le contexte légal du logiciel libre a permis la mobilisation d'une extraordinaire quantité d'énergie. Ce n'est pas qu'une question technique. C'est parce qu'on sait qu'il y a des licences qui protègent les libertés qu'il y a des gens qui ont pu produire du logiciel libre, en sachant qu'ils seraient protégés, que les libertés seraient protégées. Alors, il y a une seconde question qui revient, c'est pourquoi les gens font du logiciel libre. Grande question, parce que finalement ça paraît bizarre. Alors, il y a plein de réponses qui ont été apportées. Moi, il y a une réponse qui me plaît bien, et je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de grands juristes ici, parce que je crois que la conclusion les aurait un peu énervés. La meilleure réponse, en fait, c'est Eben Moglen qui l'a écrite, et qui dit qu'en fait c'est juste une question humaine, semblable à la raison pour laquelle Figaro chante, pour laquelle Mozart a écrit pour lui la musique qu'il chante, et pour laquelle nous construisons tous de nouveaux mots, parce que nous pouvons. L'homo ludens rencontre l'homo faber. La condition sociale de l'interconnexion globale que nous appelons l'Internet rend possible la créativité pour chacun d'entre nous dans des voies nouvelles, et que nous n'apercevions même pas en rêve, à moins que nous n'autorisions la propriété à interférer. Et c'est vraiment pour cette raison-là qu'on fait du logiciel libre, et la dernière phrase, à moins que nous autorisions la propriété à interférer, veut simplement dire une chose, c'est que si on ne s'occupe pas des aspects juridiques, si on ne tient pas compte des aspects juridiques, demain, les libertés qu'on a aujourd'hui en tant que développeur de logiciels libres, demain, les libertés que vous avez en tant qu'utilisateur, par exemple, de CD musicaux, pourraient être mises en question. Donc il est très important de ne pas laisser la propriété... Alors s'il y a des gamers en propriété, c'est encore une fois parce que la propriété intellectuelle, ben, ce n'est pas quelque chose qui est établi de fait. Donc j'aime pas mal cette phrase. Je pense que vraiment, il y a tout dedans. C'est parce que nous pouvons, il y a l'utilisation du réseau, l'utilisation d'Internet, même si ce n'est pas le sujet de la conf, a été très importante dans le développement de logiciels libres, et il y a le fait que la propriété ne doit pas venir interférer, même si le logiciel libre est basé sur le droit d'auteur. On utilise le système tel qu'il est, on peut penser, mais ce n'est pas le sujet, que le droit d'auteur pourrait être amélioré, qu'il y a des choses qui devraient être changées dans le droit d'auteur, mais en tout cas, nous l'utilisons. Alors, ce n'est pas la fin, parce qu'en fait, ce matin, il y a une présentation sur les brevets. Alors ça, c'est un petit logo qui a été fait par des gens de Nevrax, qui font des jeux libres, que j'aime beaucoup. Mais ce matin, alors par contre, là, je ne vois plus rien, mais c'est pas très grave. On a eu une présentation sur les brevets logiciels. Alors, si on revient sur la phrase de Ben Moglen, on voit, à moins que nous autorisions la propriété interférée. La présentation qu'a fait Edouard Trépose était tout à fait une présentation de juriste, tout à fait claire, sans vraiment prendre parti, même si on sent bien quand même que, bon, les brevets logiciels, ils ne sont pas trop pour, etc. Mais quand même un certain nombre de points qu'il n'a pas dit, que moi, je peux me permettre de dire. Alors, déjà, il faut quand même comprendre, il a un petit peu dit que finalement, si on peut résumer ce qui se passe en Europe actuellement, c'est que la Convention de Munich de 1973 interdit la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tel, que la jurisprudence de l'Office européen des brevets a accordé un certain nombre de brevets sur des programmes d'ordinateur malgré cette convention, et qu'en fait, actuellement, on essaye de changer la loi tout simplement pour valider la jurisprudence illégale de l'Office européen des brevets. C'est en gros, concrètement, ça. C'est-à-dire qu'on change la loi pour valider l'Office européen des brevets. Je rappellerai qu'il n'y a pas eu une seule étude économique qui a prouvé que la brevetabilité des programmes d'ordinateur serait favorable à l'innovation et à l'économie en général, malgré le fait que ce soit l'argument avancé, officiellement, pour mettre en place les brevets logiciels. Deuxième chose, je rappellerai que l'Office européen des brevets, ce qui n'a pas été dit ce matin, n'est pas un organisme public. C'est un organisme privé qui est financé par le dépôt des brevets. Donc on comprend bien que plus il y a de brevets, plus ces gens-là auront d'argent. En plus, l'Office européen des brevets a un certain nombre de chambres de recours, et notamment le fameux effet technique dont on nous a parlé ce matin. Ben, deux choses. Cet effet technique a été introduit par une chambre de recours de l'Office européen des brevets qui n'avait pas le droit légal de le faire. Et deuxième chose, l'effet technique n'a jamais été défini. Ça, c'est un grand truc avec les juristes, et quand ils emploient des mots, demandez-leur de définir un mot. L'effet technique, jamais personne n'a défini. Et quand on me dit qu'on peut breveter un programme d'ordinateur s'il a un effet technique, moi je réponds, tout un programme d'ordinateur a un effet technique, parce que c'est le but d'avoir un programme d'ordinateur, d'avoir un effet technique. Donc, au niveau de l'Office européen des brevets, on tente de changer la loi simplement pour rendre, je dirais, légale la pratique scandaleuse de l'Office européen des brevets, plutôt que simplement de dire à l'Office européen des brevets, ben maintenant vous arrêtez vos conneries, et on revient sur le texte de la loi de 73, qui est le texte pour l'instant de la loi, tout simplement. Je vais noter un petit peu dans l'ordre. Oui, quelque chose qui n'a pas été dit, c'est que les brevets, Pourquoi finalement il y a des gens qui sont pour les brevets finalement ? On peut se poser la question, parce que, bon, économiquement, il n'y a pas une seule preuve économique qui a été apportée que c'était favorable. Au contraire, toutes les études qui ont été faites ont montré que ce serait défavorable globalement à l'innovation. Même des études commandées par l'Office européen des brevets ou la Commission européenne. Alors si on réfléchit bien, pourquoi il y a des gens qui veulent des brevets ? Bon, d'abord, il y a des experts en propriété intellectuelle, tout simplement parce que plus de brevets, c'est plus de business pour eux. Parce qu'il faut bien comprendre que les conflits en brevets, ça coûte beaucoup d'argent. Déposer un brevet, ça coûte de l'argent, le contentieux, ça coûte de l'argent. On l'a rappelé, le droit d'auteur, c'est à partir du moment de la création qu'il existe, il n'y a même pas besoin de dépôt, etc. Dans le domaine du brevet, il y a un dépôt, recherche d'antériorité, les contentieux coûtent très cher. Donc les experts en propriété intellectuelle, pour eux, c'est tout bénef d'avoir des brevets, parce que ça fait plus de business. Il y a l'Office européen des brevets qui a besoin de plus de brevets, parce qu'effectivement, ils sont financés exclusivement par les brevets. Et je rappelle que c'est une organisation privée. Donc le premier jour, si je me souviens bien, on mettait quelques doutes sur la fiabilité des organisations privées pour gérer ce genre de choses. Et puis finalement, il y a quoi ? Il y a tous ceux qui veulent établir des monopoles ou renforcer des monopoles. Parce que finalement, si demain on accorde des brevets sur des idées, on va accorder des brevets sur quoi ? Par exemple, sur des formats de données. Imaginez demain qu'on apporte un brevet sur le point doc, par exemple. C'est un verrouillage absolu de l'information qui est contenue dans le point doc. Imaginez qu'on apporte par exemple des brevets sur des protocoles. Imaginez quelqu'un qui écrit un serveur quelconque. Vous savez, sur Internet, vous avez plein de serveurs, serveurs courrier électronique, serveurs web, serveurs FTP, etc. Imaginons que quelqu'un écrive un nouveau serveur. Dans l'état de l'art du droit d'auteur, ce qui est normal, il a le droit d'écrire le serveur, il est protégé par le droit d'auteur. Par contre, il ne peut pas interdire à quelqu'un d'écrire un client qui va pouvoir communiquer avec ce serveur parce que le protocole de communication doit être reconnu, interopérabilité, etc. Si demain il peut déposer un brevet sur un protocole, il va choisir qui va pouvoir écrire des clients. Et donc, il va mettre en mal la concurrence. On parlait d'Amazon tout à l'heure. Amazon, je ne sais plus si c'est en 98, je crois, a déposé donc le one-click shopping, qui est une méthode de business, qui consiste simplement à dire à quelqu'un, je vais vous permettre de faire de l'achat en ligne en un seul clic. Techniquement, qu'est-ce qu'ils utilisaient ? Ils utilisaient les cookies, qui ont été inventés par qui ? Par Netscape. Donc, ils avaient strictement rien inventé. Ce qu'ils ont breveté, c'est une méthode de commerce électronique qui dit simplement qu'un numéro, donc un cookie, permet d'avoir des informations sur quelqu'un. Je suis désolé, moi, quand à la Sécu me demande mon numéro de sécurité sociale, avec mon numéro de sécurité sociale, ils savent qui je suis. C'est absolument pas nouveau. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça tout simplement pour arrêter la concurrence. Ils ont déposé le brevet, ils ne l'ont pas utilisé contre personne. Et puis le jour où Barnes & Noble, qui est un grand libraire américain traditionnel, implémenté aux États-Unis depuis très longtemps, a voulu ouvrir un site de commerce électronique, qu'est-ce qu'ils ont essayé d'implémenter ? Ils ont essayé évidemment d'implémenter quelque chose de relativement simple pour les utilisateurs, donc avec le moins de clics possible. Qu'est-ce qu'a fait Amazon ? Ils les ont attaqués sur le brevet, en disant « vous violez notre brevet ». Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même qu'il y a eu plusieurs procès. Le premier, Amazon a gagné, le deuxième, Barnes a gagné. Je ne sais plus quel a été le résultat du troisième, je ne sais pas s'il a encore eu lieu, mais ils ont été en procès très longtemps, ça a coûté un fric fou. Donc on voit en fait que le brevet est utilisé sous une forme de terrorisme, finalement juridique, pour empêcher la concurrence. Et d'ailleurs, finalement, comment aujourd'hui les brevets sont utilisés ? Les grandes compagnies qui ont les moyens de déposer des brevets, on dépose des tas de brevets, sur tout et n'importe quoi. Et si demain vous êtes une PME, PMI, en vous disant, finalement les brevets, moi j'ai eu un conseiller en propriété intellectuelle qui a réussi à me convaincre que finalement les brevets c'est la solution. Droit d'auteur, c'est merdique, ça ne permet pas de protéger suffisamment, donc on va faire des brevets. Donc vous développez votre truc, vous dépensez beaucoup d'argent pour déposer votre brevet, et là vous arrivez sur un marché où finalement vous avez un concurrent assez important qui vous voit arriver. Et vous arrivez, là vous êtes tout fier avec votre brevet, vous dites moi j'ai mon brevet, donc de toute façon je vais imposer. Ah oui, mais le problème c'est que le mec en face, lui, il a des dizaines de brevets potentiels. Il va vous dire, bon, toi tu as ce brevet là, écoute, moi j'ai celui-là. Moi j'ai celui-là, moi j'ai celui-là. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Tu m'attaques ? Tu vas perdre. Parce que tout simplement, il n'y aura pas les moyens d'attaquer. Les brevets, les grands détenteurs de brevets, constituent des champs de mine, tout simplement, sur lesquels si vous vous approchez, vous allez tomber sur une mine. Et ce n'est pas avec votre petit brevet que vous allez vous en sortir. Donc il faut bien voir que le brevet, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, est utilisé en termes de terrorisme juridique pour détruire les PME, PMI qui seraient innovantes. Le droit d'auteur garantit l'innovation et la concurrence, le brevet tue l'innovation et la concurrence. Et je crois... Ah oui, on nous disait effectivement ce matin que Edouard Trépoz nous disait que on laissera les experts de l'OEB, les APA cités et les tribunaux finalement décider de la validité ou non de tel ou tel brevet. Si on laisse l'OEB décider de la validité des brevets, alors qu'ils déposent des brevets illégaux, enfin ils acceptent des brevets légaux depuis des années, je ne sais pas où on va aller. Même des experts en brevets considèrent aujourd'hui qu'il y a environ 10 000 brevets qui ont été acceptés par l'Office européen des brevets, qui seraient invalidés devant une cour de justice. Donc on voit dans quelle situation ubuesque qu'on est, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui pourraient disparaître, des PME, PMI innovantes disparaître, parce que tout simplement ils pourraient être attaqués sur un brevet qui est en fait, qui serait invalidé en justice. Mais pour qu'il soit invalidé en justice, ben, il faut aller en justice. Et ça coûte un fric fou. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une société française qui est dans le domaine, je crois, de la production multimédia, qui, dans son bon droit, s'est fait attaquer sur une clause d'un brevet par un éditeur américain. Et finalement, la petite boîte a gagné, au final. Seulement, quand ils ont gagné, ben, ils avaient déjà disparu. Ils n'avaient déjà plus un sou. Donc retenez bien que les brevets logiciels, c'est du terrorisme juridique, exclusivement. Les seuls qui sont pour, c'est les experts en propriété intellectuelle, c'est l'Office européen des brevets, et c'est les grandes compagnies. Bon, moi je peux me permettre de dire ça, je pense que l'intervenant de ce matin n'aurait pas forcément complètement en désaccord avec moi. Donc voilà, c'était juste sur la partie, je dirais, brevets, et puis donc si vous avez des questions...
Ah d'accord. Si tu veux, bon, à ma pensée stricte, c'est déjà d'une que les licences qui ont été faites sur les logiciels, programmes et autres, et le grand protectionnisme qu'ont certaines boîtes par rapport à leur code source, donc, est surtout lié à une chose, c'est l'abus de certains individus qui prennent la liberté de pouvoir entrer. Enfin, le code source, c'est quand même une porte arrière qui te permet d'accéder au programme. Et parfois, ce n'est pas le programme que tu veux défendre. C'est ton information à toi. En tant que boîte, tu as quand même certains projets qui ne pourront être protégés qu'au moment où tu déposeras un brevet. Mais pour justement déposer le brevet, et celle de le disait aussi ce matin, il faut complémenter ton œuvre, il faut la terminer. Donc tant que tu ne termines pas, tu as ton projet sûrement sur ton ordinateur. Et si quelqu'un passe par derrière, et encore pire, alors économiquement, je veux dire, tu vas faire fermer des petites boîtes parce que sûrement elles ne vont pas pouvoir payer toute la sécurité nécessaire pour pouvoir protéger à 100% leur programme. Et encore, on sait qu'au niveau informatique, c'est impossible de protéger.
Ben, protéger techniquement, mais juridiquement, le programme est protégé à partir de sa création.
Oui, mais voilà, la création, le problème, c'est qu'il faut finir le programme pour le protéger. Et donc, tu ne pourras pas faire, enfin, tu peux faire des brevets en partie, en secteur, mais ça va être quoi? Dépenser encore beaucoup plus d'argent, je veux dire, c'est de la folie. Enfin, là, le problème, c'est qu'il y a un abus sûrement de plusieurs parties, les gens qui utilisent donc les logiciels, enfin, les codes sources pour pouvoir briser la sécurité d'un programme, parce que tous les programmes ont finalement des notions de sécurité et fiabilité. Et ils vont casser ça pour pouvoir soutirer de l'information. Et je pense vraiment que ce n'est pas juste et que ce n'est pas correct. Et a priori, c'est du vol même.
Ah, je suis d'accord, mais c'est un autre sujet.
Et, je ne pense pas trop, tu vois. Tu me parles de brevets, tu me parles de licences. Comment t'expliquer? Enfin, j'ai étudié donc ingénierie de système Microsoft. A priori, ouais. Je suis peut-être plus dans l'autre clan. Mais je comprends bien les abus que Microsoft abuse énormément des gens, parce que c'est vrai que ces licences sont très chères, c'est incroyablement cher, c'est un fric fou qu'il faut dépenser pour n'importe quelle boîte. Mais malheureusement, techniquement, ben, c'est l'unique moyen d'assurer après tes clients d'avoir un système fiable.
Ah, le juste propriétaire est le seul moyen d'avoir un système fiable. Ah, bon, ben, je crois qu'on ne fait pas la même informatique alors. Parce que le chez Libre est la seule manière d'avoir vraiment un système fiable, pas 100%, c'est pas une garantie à 100%. Quant au prix des licences, franchement, c'est un faux débat de prendre les licences, parce que Microsoft est capable de faire du dumping de prix du jour au lendemain. Ce qui est important, c'est la liberté, parce que c'est la liberté de l'accès au code source, la liberté aussi à l'information qui circule. Ce qui est plus important que le code source, finalement, c'est l'information qui est traitée. L'argument du prix, je ne l'utilise jamais, parce que demain, si tu te souviens bien, par exemple, lors du procès qui a eu lieu aux États-Unis, à quoi ils ont été condamnés, Microsoft, au final, c'est à donner de l'argent pour équiper des écoles en machines. C'est fantastique. équiper des enfants de machines avec du Windows dessus, même gratuitement, c'est tout bénef pour Microsoft. Tu sais, c'est un peu comme la drogue, quoi. Ton vendeur du coin, la première fois, il va donner la drogue gratuite, et puis après, tu vas commencer à casquer, et puis tu pourras surtout plus t'en sortir, quoi.
Le brevet, ça peut pas être aussi un support pour une petite boîte pour justement aller vendre et poser un brevet fort pour une petite boîte, c'est au pire se faire racheter, mais c'est quand même
oui qui sera fort.
Mais qui peut commencer
les
à
les exemples montrent le contraire. Et rappelons une chose, la meilleure chose en termes de concurrence et de d'innovation, c'est quand même le secret. Le droit d'auteur permet le secret. On peut faire du logiciel libre, mais on peut faire aussi du logiciel propriétaire. Dans le domaine informatique, simplement, le secret, ça suffit à être concurrentiel. Et exemple montre que c'est pas avec un brevet qu'on va s'en sortir. Tous les exemples montrent. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les experts en propriété intellectuelle, qui sont pour les brevets, qui notamment font beaucoup de bruit là-dessus, il y a 2-3 ans, leur grand truc, c'était de montrer, effectivement, regardez, ils arrivaient toujours dans les débats avec la start-up du coin, qui avait une idée super innovante et tout, sur laquelle ils avaient déposé un brevet. Ils disaient, c'est la seule façon qu'ils vont s'en sortir face aux Américains. Ah oui, mais le problème, c'est que toutes ces boîtes ont disparu, et ils ont oublié juste un truc, c'est que les brevets américains ne sont pas valables en Europe, et la meilleure façon de se protéger des brevets américains, c'est de ne pas avoir de brevets en Europe. Parce que si on accepte les brevets en Europe, les premiers brevets qui vont tomber, c'est les brevets qui ont été déjà déposés auprès de l'Office européen des brevets, américains, en attendant la validation des brevets logiciels. Donc l'exemple montre que les PME-PMI n'ont aucune chance dans ce modèle, et que leur seule façon de s'en sortir, c'est le droit d'auteur actuel et le secret. C'est vraiment la seule façon de s'en sortir.
Le secret à partir du moment où c'est...
Mais le chef propriétaire, c'est du secret. Je suis désolé, c'est du secret.
D'accord.
Là, je ne parle pas de logiciel libre.
Et pour les systèmes de preuve, de brevet, enfin, c'est pour y revenir, le système de preuve que donne le brevet est plus intéressant que le droit d'auteur, peut-être. Et le régime qui s'y applique derrière.
Bon, en tout cas, le juriste de ce matin n'avait pas l'air tout à fait d'accord, mais les exemples montrent que non, c'est tout. Quand des gens, effectivement, de la Commission, l'Office européen des brevets, t'avancent comme argument l'innovation, la concurrence des PME-PMI, quand ils commandent des études pour le prouver, que les études ne montrent pas ça et prouvent le contraire, tu te dis, bon, c'est bon. Si vous-même, vous n'arrivez pas à fournir des études qui montrent ce que vous avancez, c'est un peu embêtant, quoi. C'est-à-dire, quand on veut changer la loi et qu'on avance des arguments... et qu'on commande des études, et que les études ne confirment pas ce qu'on avance, c'est quand même qu'il y a un souci. Donc, j'ai beau ne pas être un expert du sujet, l'exemple montre que les brevets, c'est pas la solution pour les PME-PMI. Et d'ailleurs, quand on parle avec des PME-PMI du logiciel, propriétaire ou libre, peu importe, et qu'on discute avec eux, ils sont à fond pour le droit d'auteur et le secret. Ils sont à fond dessus. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment informés de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la plupart des PME-PMI ne savent pas aujourd'hui que dans quelques mois, la directive va être votée et qu'ils pourraient se trouver en danger. Mais quand on leur explique, il n'y a aucun souci, ils comprennent, ils nous disent effectivement, nous c'est le droit d'auteur, c'est le secret. Le brevet pour nous, c'est pire que tout. Simplement, ils ne sont pas suffisamment informés. Je laisse la place à Christophe. Bon, un petit café quand même. J'aurais compris ce qu'il voulait l'autre. Moi j'ai dû rebooter, je crois.